Donc nous sommes ensemble en direct et en public depuis notre studio 99 jusqu'à 17h. Donc il nous reste 35 minutes. C'est juste ce qu'il fallait pour accueillir la liste femme au Grand Conseil. Donc c'est la liste numéro 7. Voilà, maintenant je m'en mêle les pinceaux parce que vous êtes la troisième des listes de la société civile qu'on souhaitait recevoir ici à la radio. Alors bienvenue à vous. Donc j'ai en face de moi Nikita Mazzoni. Bienvenue, Cerise Rossier et Alice Rendegger, c'est ça, hein, voilà. Alors peut-être commencerions-nous par une présentation que vous feriez vous-même de vous-même, vous par rapport à cette liste-là, quelle fonction, pourquoi y êtes-vous, et pourquoi cette liste-là?
Alors je commence, si ça va à tout le monde.
Alice commence.
Alors Alice Rendegger, j'ai 23 ans, je suis étudiante en lettres, je suis aussi enseignante remplaçante, du coup donc allemand-français. Je me suis engagée dans la liste parce que, ben, du haut de mes 23 ans, j'ai pas envie que le jour où j'ai une fille, elle vive ce que moi j'ai déjà dû vivre en tant que femme, bêtement. Et aussi, je suis persuadée que la démocratie, à l'heure actuelle, ça doit être de la démocratie active, qu'il faut la réinventer, qu'elle doit redevenir citoyenne. Je suis citoyenne. Je me sens pas représentée actuellement au Grand Conseil parce que je suis jeune, je suis étudiante, je suis femme, tout ça. Et que, ben, fallait y aller, donc j'y vais. Et ça, c'est un projet porteur parce que c'est un projet citoyen.
Je m'appelle Cerise Rossier, j'ai 32 ans, j'ai un parcours de mère célibataire jeune à 19 ans et je suis artiste à plein temps. Et lorsque j'ai vu les chiffres récemment, les chiffres des inégalités hommes-femmes, femmes-hommes, en fait ça m'a sauté aux yeux qu'en 2018 on n'y soit toujours pas et... J'ai aussi ressenti que cette liste tombait au bon endroit, au bon moment, qu'on avait comme ça quelque chose de fort à accomplir maintenant, que les choses peuvent changer très vite maintenant. Et je pense que ça peut être étonnant, une artiste jeune qui s'inscrit en politique de cette manière, mais cela peut toucher les femmes dans leur ensemble, dans leur grande diversité, de tout d'un coup se dire il y a quelque chose qui fonctionne toujours pas et on fait toujours l'impasse dessus.
Très bien, merci beaucoup Cerise. Et Nikita, à ton tour.
Alors je m'appelle Nikita, j'ai 24 ans, je suis barmaid. Personnellement je me suis engagée dans la liste parce que pour plus ou moins les mêmes raisons que Alice a cité précédemment, c'est que j'avais plus envie qu'on prenne la parole à ma place. J'avais plus envie d'être représentée par des tiers qui n'étaient pas forcément concernés directement par les problèmes que nous allons traiter en fait à travers la liste.
Le fait d'avoir constitué cette liste, est-ce que cela en soi a provoqué justement des remarques du scepticisme ou justement des personnes qui disent mais non mais vous saurez jamais le dire comme nous on l'a dit. Est-ce que ça, même ça, est-ce que ça a provoqué ce type de réaction ou est-ce qu'on peut dire que quand même les personnes ont bien compris et puis quoi qu'il en soit qu'elles l'ont comprise ou pas finalement on en a cure. Mais voilà, comment est-ce que ça a été perçu selon vous?
Ben, en fait, au début, on a eu des commentaires très agressifs, voire très perplexes sur Facebook. Mais depuis qu'on a vraiment lancé la liste, qu'on a présenté les candidates, présenté le programme, on a un accueil absolument positif, il me semble, dans les médias. On en parle aux gens et c'est génial.
D'accord, oh, bah, très bien. Cerise, tu voulais compléter, tu disais?
Un très bel accueil, oui.
D'accord. Eh bien, tant mieux, c'est bien. Alors, dites-moi, vous êtes les trois très jeunes et effectivement dans des postures, disons, peut-être un petit peu singulières par rapport à la politique. Alors, qui sont vos colistières? Sont-elles également des personnes qui viennent de milieux extrêmement différents? Ça, c'est la première partie de la question. Et ensuite, parmi vous, y a-t-il beaucoup de personnes qui ont une expérience politique préalable ou au contraire, vous avez ce qui est mis un peu plus en valeur, c'est les personnes qui, justement, n'en ont pas ou en ont moins. Qui veut répondre? Nikita, peut-être, pour commencer.
Alors, nos colistières sont plus ou moins toutes dans le même cas, c'est-à-dire qu'on a, comme disait Cerise, c'est un mouvement citoyen. Hein, donc, qui représente mieux les citoyennes que les citoyennes elles-mêmes. Donc c'est vrai qu'on est une liste très 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 hétéroclite, avec plein de métiers différents, plein d'âges différents. Oui, il y en a qui ont de l'expérience en politique, notamment notre, on va dire, chef de file, Manuela Honegger, qui est politologue, qui travaille actuellement avec Rémi Pagani. Voilà. Qui a déjà un petit bout de carrière en politique, mais voilà, je pense que pour nous aussi c'était important de créer une liste qui représentait réellement la population féminine genevoise, qui n'est pas constituée uniquement de personnalités politiques, de carrières politiques. Voilà, on est respectivement enseignante, artiste, barmaid. Je pense que beaucoup de personnes peuvent s'associer en fait avec ça, et que plus on représentera cette partie-là de la population, plus on pourra créer un déclic en fait chez les gens, qui se diront « Ah bah peut-être que moi aussi, en fait, j'ai besoin de ça. Peut-être que moi aussi, je peux faire quelque chose. »
Très bien. Cerise, tu voulais ajouter quelque chose?
Donc une liste 100% féminine qui amène maintenant la légalité à l'agenda politique. C'est surtout ça qui est important.
Oui, alors bien sûr qu'on va, venir tout doucement au programme à proprement parler, et puis avec les différentes singularités, les différentes choses que vous portez, pardon. Mais j'avais encore envie de vous demander de quelle manière est-ce que, combien de candidates êtes-vous sur la liste ?
19.
19, voilà. Comment est-ce qu'on en arrive à trouver 19 personnes qui sont prêtes à faire ce pas ? Parce que c'est pas rien. Il y a une forme de... C'est se dévoiler que de postuler, que de se présenter. C'est avoir une vie qui, tout d'un coup, devient extrêmement publique et certainement scrutée. Est-ce que ça, c'est quand même un pas à... Typiquement, à la radio, on est plus en retrait parce qu'on voit pas nos visages, parce qu'on est derrière un micro. Là, vous avez vraiment, d'une certaine manière, vous apparaissez au devant de la scène. Est-ce que ça a été difficile, compliqué de trouver ces 19 personnes, ou au contraire, il a fallu peut-être à un moment donné même trier? Qui veut répondre à ça?
Il y a eu une magnifique dynamique que je qualifierais presque d'organique qui s'est mise en place. Et je pense que la majorité des personnes, dont moi, ont senti l'urgence de l'objet, du but, plutôt que d'abord elles-mêmes et leur représentation.
Très bien. Quelqu'un veut ajouter quelque chose à cette remarque?
Oui, et puis aussi, enfin, moi, c'était pas du tout prévu dans mon plan de vie de m'engager en politique à 23 ans, j'y avais jamais pensé. Mais il me semble que c'est... Je suis fière, en fait, d'apparaître en tant que moi. Parce que c'est ce qui me manque en politique. C'est qu'il y ait des gens lambda, c'est qu'il y ait des gens citoyens. Et je suis contente de le faire.
Tout à fait, absolument. Comment est-ce qu'on établit un programme lorsque, justement, on est quand même dans cette grande diversité, que souvent, eh bien, parmi vous, en tout cas, il y a des personnes qui sont exemptes d'expérience politique, donc c'est peut-être un petit peu compliqué parce qu'on ne connaît pas éventuellement les fonctionnements du truc, il faut qu'on apprenne et qu'on apprivoise certains mécanismes. Comment est-ce que c'est compliqué d'arriver à trouver un programme commun et à dire, voilà, on va, c'est comme ça qu'on va mener campagne, et puis ensuite, on viendra bien sûr au programme. Hein. Mais avant cela, voilà, est-ce que c'est difficile de se mettre dans ce, de se jeter dans ce bain-là? Parce qu'après, voilà, il faut tenir un certain discours d'une certaine manière. Enfin, il y a la sémantique, il y a la manière de dire les choses.
Ben en fait, ce qui était incroyable, c'est qu'on est toutes femmes. On a toutes des problèmes spécifiques au fait que nous sommes femmes. Et du coup, bêtement, ça va très très vite de faire un programme parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc ce qui a été difficile, et c'est de trier, de faire le tri, de vraiment qu'est-ce qu'on met sur ce programme-là pour que ça fasse tilt aux gens directement. Évidemment, le programme n'est pas complet, il y a encore plein de choses à dire. Et aussi, ça a été des débats extrêmement riches entre nous, où on a, enfin, moi, j'ai appris énormément de choses, on s'est beaucoup renseigné, enrichi, et ça a été un apprentissage assez fabuleux, j'ai trouvé.
Oui, le programme s'est construit comme une gouvernance qui regroupe 6 principaux objets, qui sont la démocratie, le travail, la justice, les assurances sociales, l'éducation.
Et la société ?
En 6e.
D'accord. Alors voilà, le programme, on peut y venir. Donc ça, ce sont les 6 thèmes moteurs, pourrait-on dire, de votre programme. À l'intérieur de ça, avez-vous hiérarchisé d'une certaine manière ? Est-ce qu'on hiérarchise dans un programme les éléments que l'on va annoncer, en disant qu'effectivement, à chaque fois que, j'imagine, vous êtes reçu, comme vous l'avez dit, même avec beaucoup de bienveillance, eh bien, certainement que le temps manque pour faire le tour de tout. Alors, est-ce que, justement, il y a une certaine priorité que vous mettez en avant certains arguments plutôt que d'autres ?
Bah, ça dépend des gens qui sont invités. Donc bêtement, moi, je m'occupe de l'éducation parce que je suis prof. Mmh. Donc voilà, ça c'est mon thème. Donc je vais en parler. Et d'accord. Du coup, ça dépend des personnes qui sont invitées. Et on est toutes qualifiées pour parler de tout. Mais on a une spécificité propre à chacune.
On s'est constitué en groupe de travail. Et okay. Au-delà des regroupements ensemble toutes... on travaille chacun de notre côté en petits groupes et on partage nos expériences.
Ok. Quelles sont les ambitions de cette liste ? Que pensez-vous de ce qui va advenir au lendemain du 15 avril ? On sait qu'il y a ce quorum de 7%. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose déjà en soi de difficile à obtenir ? Est-ce que vous pensez qu'au contraire, ça va s'envoler parce que les problématiques qui sont présentes sont extrêmement urgentes et extrêmement patentes. Qu'en dites-vous ? Quel est votre diagnostic, votre pronostic ?
Alors, moi, je pense que même si tout d'un coup, ce qu'on a mis en place ne décolle pas, pour utiliser le terme,
oui.
Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est créé une visibilité, qu'on a créé un mouvement, qu'on a créé une liste, qu'on s'est rassemblé, qu'on a été dans les médias partout. Et à ce moment-là, même si ce qu'on a mis en place ne marche pas dans le sens dans lequel on aimerait qu'il marche, mmh. Je pense qu'on a mis quelque chose quand même en marche.
D'accord.
On a mis un mouvement en marche, on a rassemblé des gens, on a pu mettre des idées en avant, on a peut-être remis quelques sujets à travers le programme sur le tapis en fait, qui était peut-être un peu passé aux oubliettes. On a rappelé que les femmes avaient une voix. Et puis je pense que dans tous les cas, ça peut être que positif ce qui va arriver, même si voilà, on sera peut-être pas toutes les 19 assiégées.
D'accord.
On n'arrête plus nulle part, dans aucune partie du monde, de maintenant mettre sur le tapis les questions par rapport aux femmes.
Mmh. C'est vrai. On peut dire que...
Et on n'arrêtera plus.
Voilà.
Très on bien. Espère.
En tout cas, vous en êtes les actrices et les personnes, les protagonistes, quoi qu'il en soit. Donc, est-ce à dire que quoi qu'il en soit, mais admettons que la mauvaise nouvelle tombe, que le 7% ne soit pas atteint, par exemple, eh bien, cette liste continuerait sous une autre forme d'exister politiquement, socialement ?
On est un collectif, donc de toute manière, d'accord. on est rassemblés autour d'une même cause. Le fait qu'on ait justement ce dont parlait Alice, on couvre un spectre assez grand de la population féminine genevoise, du fait de notre qu'on soit un groupe hétéroclite comme ça, au niveau des âges, au niveau de ce qu'on propose, comme disait Alice, nos spécificités. Il y a assez de domaines dans lesquels, si tout d'un coup on n'atteint pas ce 7%, on pourra quand même développer des actions, on pourra quand même faire avancer les choses. Je pense que dans tous les cas, ce qu'on fait, c'est nécessaire en fait.
Absolument.
Être une femme, c'est être dans un combat pour soi-même. Enfin, être un humain, c'est être dans un développement magnifique. Et mmh. être une femme, il y a de toute façon les droits qui ne sont pas acquis, qui sont à acquérir, et donc on se positionne par rapport à ça.
Oui. Est-ce que le fait justement de vous être constitué en collectif cristallise ces luttes urgentes à mener ? Ce que je veux dire par là, c'est que êtes-vous sollicité par ou sollicitez-vous d'autres collectifs proches de vos valeurs ? Je pense. Je sais pas, à la slut walk, je pense à Viol Secours, je pense à l'Estime, à plein d'associations féministes comme ça. Est-ce que un réseau, peut-être êtes-vous la pierre, pourriez-vous être la pierre angulaire d'un réseau de lutte ?
Absolument. Enfin, pour le moment, du coup, à travers les groupes de travail, on va spécifiquement vers les associations, en tout cas pour tout le groupe de travail justice, on est allé directement à Viol Secours, à la Lavie, pour poser des questions aux gens qui les traitent. Et pour voir le terrain et ce que demandent les gens. Et donc oui, effectivement, on a aussi des gens de l'Estime qui font partie de la liste. On a des gens de l'Estime qui étaient là lors de la constitution du collectif. Et oui, on est en dialogue. Et on avait aussi des gens de l'afroféminisme, donc je ne sais plus le nom du collectif.
Non, en fait, afro, je pense que c'est Afrofem. Alors, Afrofem nous soutient, mais Afrofem a décidé de ne pas s'engager dans la liste parce que, comme nous, on a choisi la non-mixité homme-femme, Afrofem a choisi la non-mixité blanc-non-blanc.
Tout à fait. Ouais.
Ce qui est, à mon sens, tout à fait normal. Pour moi, le combat féministe non-blanc n'est pas le même que le combat féministe blanc. Voilà.
L'intersectionnalité est un sujet dont on parle et dont on pourrait, j'espère, parler une prochaine fois également. Le point de vue des femmes quant à la politique ici, je ne veux pas sortir du cadre local, disons. Où est-ce qu'on en est ? Il me semble qu'il y a effectivement une disparité criante des représentants du peuple, alors qu'on doit être à 50-50, j'imagine, je veux dire en termes d'humains. Voilà, comment est-ce que vous la percevez maintenant que vous êtes quand même plus qu'un pas à l'intérieur? Est-ce qu'on y retrouve un peu ce qu'on trouve dans la société, c'est-à-dire ces disparités que l'on connaît bien et que, qu'on va bien finir par abattre, mais qui sont quand même là pour le moment?
Notre programme porte en lui-même la thématique générale de l'égalité homme-femme. Je disais ça pour en venir au fait que les autres partis ont pris ces combats qu'on peut qualifier de féministes, ces objets, mais ce combat-là est toujours resté en marge. Nous, c'est notre cheval de bataille, comme les Verts, c'est l'écologie. Et donc, tout d'un coup, il y a une force qui se dégage de ça.
Ouais. D'accord, donc il y a vraiment l'idée, c'est de mettre au centre des discussions ces choses qui sont souvent relayées à la périphérie.
Tout à fait, et aussi dans le programme, on demande l'égalité dans tout ce qui est les instances politiques. C'est aussi un grand point de notre programme.
Un parmi les points tout à fait essentiels et extrêmement délicats, c'est la définition du viol. Est-ce qu'on en parle un petit peu ?
Avec plaisir.
Alors, qui est-ce qui est en... Alors, je ne sais pas qui est la meilleure personne parmi vous,
Alice.
Celle qui est le plus à même de. Alors, allons-y, Alice. Donc là, il est question. Je te laisse dire.
Ok. Alors, en Suisse, concrètement, un viol, c'est une pénétration vaginale par un pénis. C'est que ça. C'est-à-dire qu'on est un homme, on ne peut pas se faire violer. La sodomie n'est pas un viol. Et la fellation non plus. On est le pays le plus à la traîne d'Europe. Donc, et en fait, le fait que le viol soit aussi restreint, ça sous-entend que tout le reste tombe dans le domaine de la contrainte sexuelle. Et le problème, c'est que si, par hasard pur, tout d'un coup, quelqu'un porte plainte et a le courage et la force de pouvoir aller jusqu'au bout, et aussi l'argent, jusqu'au bout des démarches judiciaires, on peut arriver à une peine pécuniaire.
D'accord.
Parce que c'est de la contrainte sexuelle et pas du viol. Et ça... Ça doit changer, absolument.
Ouais.
Et donc, dans notre programme, on demande évidemment la redéfinition du viol, parce que c'est quand même la moindre des choses. On demande une assistance pénale et psychologique gratuite d'office pour toutes les victimes. Et
l'imprescriptibilité.
Ah, bien sûr, du délit.
Absolument.
D'accord, ouais. Y a-t-il là également peut-il y avoir une sorte d'automacité de la poursuite? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certainement des... On sait qu'il y a une chape de silence au-dessus de ça. Y a-t-il moyen de détecter ça à l'école, que ce soit un prof, un éducateur ou des choses comme ça? Et puis cette personne-là pourrait, dénoncer...
Une espèce de système, qui tout d'un coup se déclencherait la chose serait mise en branle.
Exactement. Alors que là... Je ne sais pas comment c'est, mais j'imagine que c'est extrêmement... difficile de pouvoir parler.
Le problème, en fait, c'est que même si tout d'un coup on détectait effectivement un prof, un collègue, etc., et que la personne parlait au nom de l'autre personne, donc c'est bien de ça qu'on parle,
oui, absolument.
Et que ça déclenchait un système, la société actuelle fait que la parole de la femme est encore mise en... Enfin, je parle de la femme parce que voilà... encore mise en cause, quoi. On parle de diffamation, quoi. Si une femme porte plainte pour viol ou qu'on dénonce quelqu'un pour viol, encore récemment, c'était aux États-Unis, on a un jeune qui s'est fait accuser de viol et contrainte sexuelle, et le juge, il a dit bon, je vais peut-être pas le mettre en prison parce que bon, il est quand même capitaine de l'équipe de football, et puis ça serait dommage de détruire sa carrière universitaire. Donc on en est là, hein, au niveau de tout ça. Donc c'est clair que l'idéal serait quelque chose de comme par exemple les violences sur les enfants, de pouvoir mettre un espèce de système en marche dès qu'on fait une dénonciation, avec des enquêtes, des assistantes sociales qui viennent voir, etc. Mais pour l'instant, je pense qu'on n'en est pas encore là. Et déjà, la redéfinition du viol, ce sera déjà un gros pas. Évidemment que ça serait super hein, d'arriver à des automatismes comme ça, mais je pense qu'actuellement, si déjà on arrive à faire ce qui est dans notre programme, on sera déjà plutôt pas mal, quoi.
J'entends bien. Alice.
Et puis aussi, en fait, bêtement, ce qui est tellement pervers dans le viol, c'est que quand on se fait violer, on ne se considère absolument pas comme victime. Et c'est ça aussi le grand problème, parce qu'on a forcément fait quelque chose de faux, et de devoir porter plainte, ça veut dire de devoir raconter encore et encore à des inconnus ce qui s'est passé, sans être déjà intimement persuadé et convaincu que ce n'est pas notre faute. Ça demande un courage et une force assez monumentale. Et donc qu'en plus, on doit se dire que de toute façon, notre parole va être remise en cause d'office, ça décourage assez vite, il me semble.
J'imagine sans compter les stigmates a posteriori, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est désigné et qu'on est sorti du groupe, eh bien, on sera désigné, j'imagine, pour les siècles et les siècles.
Oui, et puis surtout, les associations qu'on est allé consulter nous ont bien dit que, en fait, généralement, on demande aux femmes de ne pas porter plainte parce que ça peut bêtement être encore plus traumatisant, enfin, réveiller un traumatisme ou retraumatiser. Ce qui pose quand même grandement problème.
D'où le soutien psychologique et pénal, en fait.
Et judiciaire d'office, absolument.
Ouais, absolument, ouais. Que pensez-vous est-ce ce problème-là, pardon, hein, c'est assez choquant quand même d'entendre tout ça comme ça d'un coup, mais concernant l'école, les enfants, on a entendu parler, de plus en plus on entend parler du harcèlement à l'école. Est-ce qu'on peut dire que d'ores et déjà là que naissent ces comportements sexistes, machistes, qui par la suite sont confortés?
Alors, en fait, ce qu'on appelle discrimination sexuelle, donc c'est, comme à l'instar du racisme, hein, c'est une discrimination qui concerne le genre de la personne. Ce terme-là, qui arrive en 1960 dans la langue, il prend ses racines vraiment très très loin dans l'histoire de l'humanité. Donc est-ce que à l'école, avec le harcèlement scolaire, est-ce que c'est là que ça prend ses racines? Je suis pas sûre. Moi, je pense que la discrimination sexuelle, elle démarre dans le fait de vivre dans une société binaire qui nous incite à choisir un côté ou un autre, qui nous incite à avoir des comportements masculins ou féminins, un manque de présence féminine dans les manuels scolaires, dans les représentations
De figures de pouvoir.
De figures de pouvoir.
Partout. De figures de savoir.
Ouais. Même dans Wikipédia.
Est-ce que le harcèlement scolaire, est-ce que c'est là que ça démarre? Non, je pense pas. Je pense que ça démarre dans l'éducation qu'on donne, dans l'éducation qu'on a reçue, dans la religion dans laquelle on a grandi, dans l'endroit dans lequel on a grandi. C'est bien plus complexe que ça, quoi. C'est très. Et tant que cette société sera comme ça genrée, que ça soit pour les toilettes, que ça soit sur les affiches, que ça soit n'importe quoi, tant que cette société sera genrée et qu'on mettra en avant les normes sociales qui incombent aux femmes et les normes sociales qui incombent aux hommes, tout le monde sera sous pression, personne ne pourra se rencontrer. Pour moi, c'est plutôt ça que
j'ai compris. Non, en fait, je voulais en venir au code vestimentaire à l'école où on genrise une population qui n'est pas là-dedans, et au contraire, là où un territoire vierge et qui pourrait être fertile, eh bien, on va y propager des problématiques d'adultes et comment dire, qui reproduisent. Voilà les choses en place. Pardon, Alice.
Oui, justement. Bah, par exemple, par rapport au code vestimentaire au cycle, généralement, parce que c'est là qu'il y a des dress codes vraiment très stricts, où la fille ne doit pas avoir de mini-jupe, ne peut pas avoir de décolleté trop imposant, etc., etc. Ça veut dire que concrètement, à partir de 13 ans, on dit aux jeunes filles, votre corps et la façon dont vous le présentez est plus important que le fait que vous étudiez. Mmh. Ce qui est navrant, ce qui est affligeant.
Ouais. Et ça, on est là-dedans encore. Ça, c'est un parmi les chevaux de bataille que...
En tant qu'enseignante remplaçante, j'ai déjà vu des élèves convoquées dans les secrétariats parce qu'elles avaient un rouge à lèvres trop foncé. Alors elles ne pouvaient évidemment pas continuer de suivre les cours de façon aussi provocante, comme ça, c'était pour sortir en boîte de nuit.
D'accord.
Dit de la part d'hommes de 50 ans qui n'avaient rien à dire à ce moment-là. Je veux dire, voilà.
Sérieux. Les associations qui vous côtoient, vous suggèrent-elles des choses à mettre dans ce programme-là? Est-ce que vous les avez consultées? Comment est-ce que ça s'est fait pour composer ce programme?
C'est pas forcément une association, c'est un rapport d'expertise d'une professeure de l'université qui a mis le doigt sur une solution qui pourrait être applicable assez rapidement pour ce qui est de l'égalité des salaires à Genève. Là, en ce moment, en Suisse, on a la loi sur l'égalité des salaires qui a été mise en place en 81, qui fait une petite avancée par la chef Simone, notre conseillère nationale Simonetta, Madame Simonetta Sommaruga, mais qui pour nous est pas du tout assez suffisante parce qu'elle concernerait un contrôle des entreprises de plus de 50 employés, voire peut-être 100 employés, ce qui pour l'égalité salariale concernerait seulement 1 voire 1,2% des entreprises.
Ouais. C'est une sorte de poudre aux yeux.
37 ans plus tard.
37 ans plus tard.
Et il y a des milliards en jeu. Hein. Tous les ans, les femmes, ça se chiffre en milliards. Ça veut dire que tout le monde y perd. Pour la retraite, pour la vie active, pour, tout ce qui relève de l'hospice, des aides sociales, etc. Tout le monde y perd.
Sans parler des conséquences sociales, des personnes qui sont moins bien rétribuées,
évidemment,
qui sont en plus dans des situations compliquées, dans des états de famille monoparentales, des choses comme ça. Effectivement,
oui. Et évidemment, les postes à 50% précaires, etc.
Bien sûr.
Donc ce rapport d'expertise suggérait qu'on utilise peut-être les mécanismes qui sont appliqués l'accompagnement des mesures de libre-échange, l'accompagnement des...
Entre les Suisses et les étrangers, en gros,
d'accord,
on a des lois très très strictes, surtout à Genève, pour lutter contre le dumping salarial. Et donc, on a un appareil judiciaire qui est mis en place actuellement pour rendre égaux Suisses et étrangers. On aimerait que cela se fasse au niveau cantonal entre hommes et femmes.
On parlerait de dumping salarial fait aux femmes.
Oui, tout à fait.
Et plus d'inégalité salariale.
Exactement. Alors, on arrive doucement déjà au terme de cet entretien, mais ce n'est pas grave. Il y aurait des sujets que j'aurais voulu qu'on aborde, typiquement l'intersectionnalité, mais on en parlera à d'autres moments, à d'autres rencontres. Pour qu'on en termine sur des choses extrêmement tangibles, j'aurais voulu savoir, alors, comment les personnes peuvent-elles vous rejoindre, vous soutenir? Y a-t-il un site internet? De quoi auriez-vous besoin immédiatement? Et puis ensuite, vous allez parler de l'actualité de votre campagne. Mais on commence par site internet. De quoi avez-vous besoin et comment les personnes peuvent-elles manifester leur solidarité?
Alors oui, donc on a un site internet, on a une page Facebook. Il faut en parler autour de soi. Il faut se dire que si les femmes sont à l'affiche, ça bénéficie à tout le monde, que c'est une initiative vraiment citoyenne. Et vu qu'on n'a pas des financements incroyables, il faut en parler, parce que tout le monde est capable de faire ça. Et surtout, notre grand désir, ce serait... Parce que quand on vote, on peut voter pour une liste, et ça sous-entend qu'on donne 100 voix pour une liste. Ce qu'on demande, en fait, c'est que les gens votent pour la liste 7, donc cette liste 100% féminine, et la panache, avec toutes les autres femmes qui se présentent, afin de présenter des femmes, une liste avec 100 femmes. Et c'est ça notre but, c'est ça, c'est faire réfléchir les gens.
Ouais. Alors, je fais la mini parenthèse parce qu'on l'a expliqué en début d'émission et aussi à l'occasion de la première rencontre des listes citoyennes, on a expliqué le mécanisme de vote qui est partiellement proportionnel, partiellement... majoritaire, et qu'effectivement le numéro de la liste compte énormément, puisque ensuite ça permet effectivement d'ajouter ou de rayer selon qui des personnes sur la liste. Donc effectivement, là l'idée c'est de prendre donc la liste numéro 7 et puis d'y ajouter
Femmes.
Combien êtes-vous déjà sur la
19.
Liste voilà,
donc
19
ça laisse la place à 81 femmes.
Voilà, mais de bien prendre cette liste-là parce que le numéro permet par la suite d'avoir des élus.
Et aussi ce qui est très important, c'est que si cette liste est validé, c'est-à-dire que si quelqu'un se désiste, il sera remplacé par une femme. Et ça n'arrive pas ailleurs.
Absolument. Ouais.
Oui, la liste-femmes.ch.
Voilà, ça c'est le site internet, laliste-femmes.ch.
Oui, femmes au pluriel.
Oui, et puis sur la page Facebook, c'est la liste femmes au Grand Conseil.
2018. Exactement.
Voilà, et donc de quoi auriez-vous besoin ? Alors qu'on en parle certainement, est-ce que pour, allez-vous peut-être donc dans la campagne que vous menez, tenir des stands, ou est-ce qu'on peut lancer un appel si des personnes souhaitent vous inviter ? Nous, on aurait une proposition immédiate à vous faire, mais ça c'est pour dans deux minutes. Voilà, est-ce qu'on peut lancer un appel ? On en profite.
Alors, c'est clair qu'on a besoin de, sponsors, on a besoin de forcément une aide financière, hein, qu'on puisse s'installer, avoir des locaux, avoir du matériel, avoir des
flyers en quantité.
Des flyers en quantité. Trouvons une imprimerie qui nous sponsorise.
Bah oui, tiens.
Une marque de papier, ça serait cool.
On pensait à des pistes debout imprimées.
Ouais.
Par exemple.
Génial. Ah, mais ouais. Ben oui, et vous pourriez même. C'est un mètre cube qui fait, vous savez, qui fait les toilettes sèches. Ils font des Vespasiennes. C'est le mot. Des Vespasiennes où, effectivement, voilà, pourquoi pas. Ouais. Et puis, il faut aller dans les bars, dans ces endroits-là.
Il faut oser, il faut se lever, il faut s'ouvrir. Mm. Et puis, on enjoint les femmes à le faire, les hommes modernes. Et il y en a beaucoup. Ils sont merveilleux à le faire.
Et on en a besoin.
Ouais. Alors, ben justement, oui, alors Alice.
Et puis aussi, 14 mars, sur le bateau de Genève, on aura une soirée de soutien.
Ah, très bien. Y a-t-il déjà un programme que vous pouvez énoncer pour ce 14 mars ?
Beaucoup d'amusement.
Il y aura quelques prises de parole quand même, une présentation de l'info, ou bien on y va juste du côté un peu soutien festif ?
Soutien festif.
Ouais, c'est bien. Donc ça, ce sera le 14 mars, c'est un vendredi, un samedi ?
C'est un mercredi.
C'est un mercredi, voilà.
C'est le jour des enfants.
Oui, c'est très bien.
En after work ou plus si affinité.
D'accord, donc à partir de quoi ? 18, 19 ?
17.
17 heures sur le bateau Genève.
Exactement.
D'accord, donc on le rappelle, le site, alors l'agenda, c'est le 14 mars, ensuite que des personnes vous rejoignent et vous soutiennent financièrement, et j'imagine aussi en termes de bras et même de solidarité, et puis le site internet qui rappelle l'adresse ?
laliste-femmes.ch.
Et la page Facebook, c'est la liste femmes au Grand Conseil 2018.
On a un chouette Instagram aussi.
Ah, très bien, donc il y a Instagram.
Magnifiquement géré.
Ok, ouais. Super. Ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venus. Nikita Mazzoni, Cerise Rossier et Alice Rendegger. Et puis nous, notre proposition, il me reste juste ça, parce qu'après on va rendre l'antenne, ce serait qu'effectivement, nous souhaitions recevoir les trois listes citoyennes dont vous faites partie, et puis à une autre occasion de faire un espèce de grand café citoyen où on recevrait de nouveau le nombre de représentants que les listes veulent nous envoyer pour parler de sujets assez techniques aussi, mais pas que, mais pour se confronter, mais de manière bien entendu bienveillante et puis surtout dialectique, avec un public qui puisse vous questionner pour savoir quelles sont les questions effectivement qui tournent dans la tête des personnes et auxquelles elles souhaiteraient avoir des réponses extrêmement concrètes, qu'on n'a certainement pas eu le temps d'aborder ici, puisque le temps nous est quand même compté. Mais voilà, de faire cette espèce de grande émission radio en public avec des représentants justement de ces trois listes citoyennes pour toucher à ces arguments-là. Donc l'appel est lancé pour vous, et puis vous nous direz si cela vous intéresse ou pas. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'être venu. Y aurait-il une question à laquelle, que je ne vous ai pas posée, à laquelle vous auriez vraiment souhaité répondre ? Ou pas, pour aujourd'hui, sachant qu'on va de toute façon se revoir.
Si on se revoit, je pense que c'est bon.
Absolument.
D'accord. C'est bon aussi pour toi, Cerise ?
Avec plaisir qu'on se revoie.
Bon, alors très bien. Je vous remercie en tout cas beaucoup. Je vous souhaite bon courage pour la suite des opérations et on se retrouve bientôt.
Merci infiniment.
Voilà, merci. Alors pour nous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, de 14 à 17 heures en direct et en public depuis notre petit studio. Il se trouve que la semaine prochaine, on risque d'être au Silure. Le Silure, on n'en dit pas plus, on présentera le Silure avec des Siluriennes et des Siluriens la semaine prochaine. Ça risque d'être sympa et ce sera de toute façon comme d'hab, en public et en direct. Il est 57-58, on remercie toute l'équipe de Fréquence Banane à Lausanne. Un grand big up à l'équipe de Genève qui a fait un gros travail lundi passé à Unimail en parlant de Nobilag. Le site de Fréquence Banane, c'est www.fréquencebanane.ch et pour nous qui en sommes une émanation amicale, à coller, bien entendu, et bien c'est www.libradio.org. On se laisse avec ça. Ciao.